RCF.
Namur, quand c'était la guerre. Recueil de témoignages sur Namur et les Namurois durant la Seconde Guerre mondiale. Une émission de l'ASBL Namur Initiative Citoyenne, soutenue par la province de Namur dans le cadre de l'appel à projet Territoire de mémoire, par la ville de Namur et par RCF Sud-Belgique. Bonjour à toutes et à tous, ici Richard Dessart de l'ASBL Namur Initiative Citoyenne pour une nouvelle émission de Namur, quand c'était la guerre. On vous rappelle qu'on recherche toujours des témoignages, donc si vous souhaitez nous contacter, vous pouvez le faire par plusieurs biais, soit par internet sur www.namurenguerre.be, par mail à l'adresse info@namurinc.be, par téléphone au 0474 114 909 ou par courrier ASBL Namur INC, rue Moncrabeau 6, 5000 Namur. Aujourd'hui, je vous amène à la découverte de monsieur André Sixte. Monsieur André Sixte a 99 ans, il habite Wépion. Alors, au moment de la guerre, il n'était pas namurois, mais il passait souvent à Namur parce qu'il travaillait sur la ligne de chemin de fer entre Charleroi et Namur. Il venait d'Auvelais et il nous a expliqué un petit peu son histoire. Vous savez, les interviews durent très longtemps, on ne passe pas tout dans cette émission. Les interviews complètes se retrouveront par la suite sur notre site internet namurenguerre.be par écrit. Donc ici, on découpe à chaque fois et on va commencer par l'histoire de son exode. Il est parti en exode à vélo et vous allez voir, c'est assez touchant. Dans la deuxième partie, il va expliquer comment est-ce qu'il a retrouvé sa fiancée là-bas, sur place pendant l'exode. C'est assez émouvant et sa fiancée, il s'est marié avec et malheureusement, elle nous a quitté cette année au mois de mai à cause du coronavirus. C'est vraiment une très belle histoire et je vous invite à écouter ça tout de suite.
Lorsque la guerre est déclarée et que les Allemands entrent en Belgique, nous sommes appelés à l'hôtel de ville de les jeunes gens avec notre carte d'identité. Carte d'identité CRAB, ma carte d'identité. Ça veut dire compagnie de réserve de l'armée belge. Par vos propres moyens, allez à Ypres. J'avais 100 francs belges pour ma maman. Jamais dépensé. Mon copain se met, lui, après quelques temps, il n'avait plus d'argent. Tout était passé aux cigarettes. Mais mon autre copain avait toujours 100 francs et moi, je ne dépensais rien. Alors comment on faisait? Ah, c'est pas... Eh bien, voilà comment je faisais. On partait à vélo. En plus de ça, entre parenthèses, j'ai jamais crevé à vélo. J'avais pas d'ennui. Bon, on partait à vélo. On dort dans une ferme au nord de Tournai. J'ai oublié le nom. C'était des Flamands. Et on explique que les Allemands approchent la Belgique et qu'on sort dans le sud. Entrer, à manger, oui. Dormir, oui. Un lit de 2 mètres de large. On était à 3 pour dormir dans le lit, on ne se touchait pas. Au matin, et on mangeait. Tant qu'on voulait, on mangeait. Au matin, la bonne femme nous dit au revoir. Et nous, ça, tous les trois, elle fait le signe de la croix. Donc, elle nous bénit. Et on continue. Elle nous avait dit, vous devez vous diriger vers Rouen. C'est vers Rouen. Mais je dois vous dire, donc, quand on a quitté Auvelais, on devait aller vers Ypres. Ce que je ne vous ai pas dit, c'est qu'à Ypres, on était des milliers de jeunes gens. Tous les milliers de jeunes gens étaient réunis à Ypres. Et on dormait partout. On dormait comment? On était nourris. Mais c'était pour... De Ypres, on nous dit, vers Rouen. Je regarde une carte et moi je trace parce que j'avais sur mon vélo. Les jeunes gens qui attendaient les trains, c'était aléatoire ça. Mais nous, au vélo, on avançait. Mais justement, par hasard, j'avais choisi des chemins qui n'étaient pas fréquentés par les convois militaires français qui montaient au front. Leur chemin était libre et on pédalait. Bon, il y avait une chose qui était très bien organisée en France, bien organisée, c'était l'accueil des réfugiés. dans chaque petit bourg, disons de quelques milliers d'habitants, à la maison communale, il y avait toujours des personnes qui accueillaient les réfugiés pour manger et pour loger. On arrivait dans la bourg, on demandait où est la maison communale. On arrivait à la maison communale, on se dirigeait vers la table. « Bonjour madame, nous sommes réfugiés, on va vers le sud de la France. »« Oui, oui, je comprends. Vous désirez manger ? Oui, installez-vous, vous allez manger. » On mangeait le midi et le soir, la même chose, mais à un autre endroit. Et alors, pour dormir, vous irez là. On dormait dans un lit. Hein. Bon, et on avançait. Mais 100 francs, un tas, je ne dépassais rien. C'était à midi. Le soir, on arrivait dans une autre ville, 25 km loin, nous on avançait à vélo. Hôtel de ville, manger, souper, dormir. Le lendemain, on repassait petit déjeuner, et remplissait nos bidons de café, et on continuait. On n'avait pas besoin de tartelle. Si on arrivait, j'avais prévu d'arriver dans un autre bourg, 15-20 km plus loin, pour dîner, ben c'était organisé. Donc, les Français, ils avaient très très bien organisé l'accueil des réfugiés, enfin, j'ai jamais eu de problème, j'ai jamais eu faim, et toujours mon billet de 100 francs, hein, belge, qui, entre parenthèses, est devenu 125 francs français, à l'époque, hein. Et nous voilà arrivés, comment, du côté de Rouen, c'est une grande ville, on est presque anonyme, on ne reste pas ici, que je dis à mes copains, non. C'est une trop grande ville, trop de gens, trop de monde. Ils ne savent pas soigner tout le monde comme on était. On part en direction de Le Mans. Le Mans, on fait les courses d'auto. Le chemin, je le connaissais parce que j'avais pris mes repères sur une carte hier. Et en cours de route, toujours la même chose. Hôtel de ville, dîner à midi. Et le soir, hôtel de ville, souper, dormir. À Le Mans, on se dit, on en a marre de rouler à vélo. Hein. Oui, mais des autres copains. On met nos vélos à la gare, à la consigne. Les trois vélos à la consigne. On reçoit chacun un papier de consigne à la gare de Le Mans. Et nous attendons le train. Bon, on prend le train. C'est là qu'il y avait du comique. Hein. Avec les sœurs qui sortaient d'un couvent ici des environs de Namur. Et parce que j'ai le nom du couvent des environs de Namur, je ne sais plus le dire. Alors, on les raconte, ces trois sœurs de Sœur des Nages, qui étaient perdues, mais tellement qu'on les soignait, qu'on était aux petits soins pourvenus, elles se croyaient au ciel. Elle le disait, qu'on est bien ici. Elle se croyait aux paroles. Elle le disait, et moi je riais, qu'elle attende quelques heures, va voir le paradis. We'll be right back. on prend le train. Dans le train, c'était plus la même chose. Le train vers Paris maintenant. Un train archibondé. J'avais mon sac à dos avec ma couverture, un peu de nourriture, les autres la même chose. Pas de place dans le train, pas de place dans les filets. Je dormais comme oreiller mon sac à dos dans le couloir. Comment ça a été pour nous retrouver à Béziers? J'ai perdu, je ne saurais plus expliquer, mais toujours est-il que les voitures où nous étions, malgré tout, on n'avait pas faim. Parce que dans les gares importantes, ça veut dire tous les 25 km, les dames étaient là avec les assiettes de nourriture. On a resté au moins 2-3 jours dans le train pour arriver à Béziers. 2 à 3 jours. Mais jamais faim, jamais dépensé d'argent. Donc, on arrivait dans une gare d'une certaine importance, les dames étaient là, avec les assiettes. Et je me rappelle la sœur de charité qui dit « Donnez par ici pour nos petits-enfants, pour nos petits-enfants. » Et alors donc, je me rappelle de ces paroles-là. On n'avait pas de petits-enfants, c'était pour elles, manger. Et alors, d'étape en étape, on arrive à Béziers, dans le sud de la France. On sort à ici, je ne sais pas qui, des policiers français. Il y avait des gendarmes belges en civil qui voulaient nous diriger. Je ne m'occupais pas d'eux. Je ne leur disais rien, mais je ne m'occupais pas d'eux. Le groupe là va aller à Murviel-les-Béziers. C'est un village de quelques centaines, comme il y avait à l'époque. Dans le sud de la France, ils étaient en retard pour vivre vis-à-vis de nous, Belges de Wallonie. On voyait, ça nous convenait. Bon. Et on allait à Murviel. Qu'est-ce qui se passe là? Entre-temps, j'avais reconnu un homme qui s'était des eaux en Belgique, dans la vallée de la Sambre. Hein. Et c'est de la famille de voisins. De ma petite fiancée que je connaissais. Ah, que dit, vous êtes des eaux, oui. Et où est la famille de ma fiancée? Ah, ben, ils sont dans tel village à Rieum. C'était Haute-Garonne. Donc, j'étais à Agen à ce moment-là. À Agen. On dormait en plein air. Tout était rempli partout. Donc, je n'étais pas seul, hein. Il y avait des dizaines et dizaines de jeunes gens comme moi, belges. Hein. Et on dormait dans des lits doubles à la porte, sous les marchés couverts des Français. Vous vous rappelez les marchés couverts des Français? Dans le sud de la France, ils ont des grands halls pour faire les marchés en dessous. Eh bien, on était en dessous de ça. Il faisait bon. En 1940, c'était un climat, au mois de juin-juillet, merveilleux le climat. Et on dormait là. Mais j'apprends par cet homme-là, réfugié, qui lui a été réquisitionné pour travailler, j'apprends que ma fiancée, avec ses parents, se trouve à Rieum.
Je vais aller là, moi. Je vais aller là. Mais comment je vais faire?
Il y avait 120 km pour arriver à Rieum. Par hasard, voilà un militaire français égaré aussi, qui était en tenue bleue, je ne sais pas. Ah, c'était des gens attachés à l'aviation. Il était perdu aussi. Et maintenant, je ne veux pas racheter mon vélo. Il n'avait pas d'argent. Seulement, ah, et moi qui voulais faire 120 km pour retrouver ma petite fiancée, qui était devenue mon époux par après. Ah, si, je vais te racheter. Oui, mec, il y a un pneu à remplacer. Ah, ben, j'achète. Ça fait que mes premiers 100 francs, j'ai racheté le vélo pour 20 francs français, plus un pneu pour 10 francs. C'était des francs de l'époque. Hein. Ça fait que j'avais encore 70 francs. C'était bien. Et me voilà parti à vélo. Hein. Je connaissais mon chemin parce qu'il y avait des cartes. Et j'essayais toujours de m'écarter de la gendarmerie française. Pourquoi? Pour n'entendre pas qu'ils m'arrêtent. Parce que dans les gendarmeries françaises, lorsqu'ils voyaient un étranger du village, il arrêtait, demandait son identité pour l'espionnage. Ça fait que j'arrivais C'était des grandes campagnes, calme, tout ce que vous voulez, c'était calme. Pas d'auto. Je voyais l'entrée du village, je voyais gendarmerie. Je faisais le petit chemin pour ne pas passer devant la gendarmerie. J'étais un des rares cyclistes. Si les gendarmes me voyaient, m'arrêtaient. À un moment donné, il y a une rivière inondée qui inonde le chemin. Mais moi, je ne connais que ce chemin-là. Je ne connais rien d'autre. C'est mon itinéraire. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vois bien les deux murs du pont, mais la rivière est inondée. Qu'est-ce que je vais faire, moi? Je réfléchis, là. Je ne vais pas retourner. Je ne connais pas les autres chemins. On va passer dedans. J'ai pédalé, j'ai passé le pont et j'ai de l'eau jusque-là. C'était pas grand. Quelques heures après, tout était séché. Il faisait bon à cette époque-là. J'ai risqué le coup. Hein. J'arrive. Où ma petite fiancée était là avec ses parents et des réfugiés d'Auvelet. J'avais déjà réussi à écrire et j'avais eu des réponses. Je vais à l'hôtel de ville m'inscrire comme réfugié belge. Du coup, je touchais 10 francs français par jour que je donnais à la maman de ma petite fiancée. Parce qu'elle me nourrissait et qu'elle me logeait. J'avais pas d'argent, moi. J'étais nourri et logé. Et j'avais ma petite fiancée.
Début d'émission, Monsieur André Sixte était chauffeur de train pendant la guerre entre Charleroi et Namur et nous en dit un petit peu plus sur cette période et sur un accident qu'il a eu à cause de l'occultation.
À cette époque-là, pas d'éclairage public. Les autos, motos, vélos avaient un éclairage réduit. Occultation des fenêtres. Et la police s'est chargée de vérifier ça pour éviter l'aviation anglaise qui venait. Mais au début des années 40, ils n'étaient pas prêts. Bon, le pilier travaillait comme d'habitude. les usines tournaient comme d'habitude, avec naturellement des restrictions dans l'alimentation. Et pas beaucoup de trains de voyageurs, ça y a pas beaucoup. Ça veut dire peut-être sur la ligne Charleroi-Namur, peut-être à toutes les heures, c'est pas beaucoup. Une petite anecdote, nous étions occupés par les Allemands. Sur le train, il y avait des compartiments réservés à la Wehrmacht, Force armée. Eh bien, il arrivait souvent, comme les trains étaient bondés, les Allemands disaient « Venez, il y a de la place ici ». Voilà une anecdote. Tous les soldats wallons étaient prisonniers en Allemagne. Les Flamands renvoyés chez eux. Il y avait une distinction. Le 1er juillet 1941, je suis chauffeur de locomotive vapeur à Tamines. J'apprends mon métier. J'avais 20 ans. Au début de l'hiver 1941, je subis un accident à vélo. Je vous ai dit que c'était l'occultation. Comme j'habitais à la Sarthe à Auvelet, je devais aller à Tamines à vélo, on ne sait pas loin. Je heurte deux piétons, je passe au-dessus d'eux, mon crâne heurte le sol, rupture interne du crâne, interne. Mon œil est porté vers la droite. Je tombe là, j'ai évanoui quelques instants. On me ramène chez moi, il n'était pas très loin. Le médecin vient, il dit, je vais demander une ambulance, vous irez à l'hôpital civil de Charleroi. Et me voilà à l'hôpital de Charleroi. Mais c'était douloureux, mon crâne. J'enfonçais mon poing dans le crâne. Tout ça était enfoncé, douloureux. Le médecin, qui était un nerveux, courait d'un malade à l'autre. Je ne sais rien faire, mais non. On me faisait des piqûres dans les fesses pour diminuer la douleur. Et après plusieurs jours, je ne sais plus combien, plusieurs jours, la douleur, ça disparaît. Ça veut dire que c'était guéri. Ah oui, je veux me lever, impossible. À cause de toutes les piqûres là, et là, ça ne va plus. Alors, on a attendu. On ne me faisait rien, j'ai attendu. Et un beau jour, j'ai pu marcher et retourner au dépôt de locomotive à Tamines, où là, j'avais un service léger de travail de bureau. J'avais donc été à l'école moyenne de Tamines 3 ans, donc. Ça va, pas de problème. Alors, à ce moment-là, avant de reprendre un travail de chauffeur, je dois passer une visite médicale à Charleroi, au chemin de fer. Donc, la direction du chemin de fer du groupe de Charleroi devait vérifier si j'étais encore capable d'être chauffeur de locomotive. Parce que chauffeur de locomotive, c'est pas toute ma vie, hein. C'est pour être machiniste, etc., etc. C'est pour faire ma carrière. Alors, à cette époque-là, il n'y avait pas de visite psychotechnique. Il y avait 2 médecins là, et une infirmière. Question de psychotechnique, ils s'en rapprochaient fortement. Ils faisaient une ligne à la craie sur le pavement. Ils disaient « marchez sur la craie, sur le trait de craie, ça va ». Revenez, maintenant on va vous mettre un bandeau sur les yeux, marchez, de mémoire, ça va. Maintenant, vous allez marcher en arrière sur le trait de craie. Alors, je marchais en arrière sur le trait de craie, ça va. Donc, ça va. Donc, question, après avoir passé la visite médicale, tout ce que vous voulez. Alors, donc, j'ai dû passer une visite médicale assez approfondie pour les yeux. Ah oui, ça, j'ai été chez un médecin du côté de Bruxelles, Cartéopole. Ça a duré 2 heures, rien que pour moi.
Que souhaiteriez-vous que les jeunes retiennent de cette période qui a été la Seconde Guerre mondiale ?
C'était une anomalie qui existe depuis plus de 2000 noms. Les hommes, des hommes qui s'entretuent, c'est déjà une chose. On dirait que dans la nature, vous voyez des combats de boxe, vous voyez le film Cowboy américain, toujours en train. Vous voyez la guerre de 1970, les Français et les Allemands, 14-18, 40-45. Vous voyez toujours des hommes en uniforme qui s'entretuent. Il y a une anomalie. C'est ça l'anomalie. On dirait que c'est l'instinct batailleur des hommes qui refait surface. Comment se fait-il que dans toutes les armées du monde, il y a toujours des volontaires pour faire un fait de guerre? Il y a toujours des volontaires. On dirait que dans la nature des hommes, dans le monde entier, il y a toujours un instinct batailleur, que c'est très difficile d'extirper.
De manière générale, quel message souhaiteriez-vous adresser aux jeunes?
Surtout, ne pas chercher misère à son voisin, c'est surtout ça. Laissez faire la nature. Donc, si vous ne vous entendez pas, laissez refroidir, laissez passer le temps. Ça veut dire surtout pas de discussion, parce que quand les jeunes se disputent, même les adultes, il n'y a aucun gagnant. Ils sont tous les deux perdants. Quand on se dispute, vous avez perdu tous les deux. Pourquoi? Vous avez perdu les pédales. Si vous êtes survolté, furieux, allez dormir. Attendez au moins 24 heures et revoyez votre copain et essayez de vous arranger. La même chose pour votre copain. Patience sur l'emprise de la colère, c'est des bêtises, c'est des bêtises. Des actes insensés, impardonnable et inoubliable.
Et voilà donc pour l'histoire d'André Sixte, qui a 99 ans, qui habite Wépion, un bon gaillard, bon pied, bon œil. Si tout le monde pouvait être aussi en forme que lui à 99 ans, franchement, ce serait pas mal. En tout cas, je vous le souhaite. Et si vous aussi, vous souhaitez témoigner sur Namur quand c'était la guerre, plusieurs possibilités sur notre site internet www.namurenguerre.be, par email à l'adresse info@namurinc.be, info@namurinc.be, par téléphone au 0474 114 909, 0474 114 909, ou par courrier SBL Namur INC, rue Montcrabeau 6, à 5000 Namur. Je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à la prochaine.